Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, ce soir dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse donc au marché de l'immobilier. La pierre, valeur refuge plus que jamais, mais est-ce toujours le bon moment pour acheter? Après un an de crise sanitaire, des taux historiquement bas, le marché résiste bien, mais il est en train de bouger. Pour la première fois depuis longtemps, les prix parisiens diminuent sensiblement et les ventes avec. Alors, où investir? Quand investir? Peut-on encore faire de bonnes affaires? On attend vos questions. Émission interactive ce soir avec deux invités pour y répondre. Bonsoir Maëlle Bernier.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com. Bonsoir Laurent Vimont.
Bonsoir.
Vous êtes président du réseau Century 21. Alors avant d'entendre les questions de nos auditeurs et de nos auditrices, peut-être un premier mot. Depuis un an et l'entrée dans cette crise sanitaire, dans cette crise économique aussi, quelles sont les grandes tendances de marché que vous observez Laurent Vimont?
La tendance principale, c'est le bond en avant des achats à titre d'investissement locatif, de placement immobilier, puisqu'on avait en France en 2017 17% des acquisitions qui étaient faites à titre de placement, et qu'en 2020, on est monté à 29%, quasiment une vente sur trois est faite à titre de placement. Alors, ce n'est pas des gros placements, c'est pas.
Des petits placements.
C'est 150 000, 100 000 euros.
Et ça, c'est relativement nouveau.
Ça n'a jamais existé en France. La pierre redevient une espèce de lingot d'or, la valeur refuge des Français.
Oui.
Et c'est le seul produit aujourd'hui dans lequel vous pouvez emprunter, créer une dette, faire rembourser la dette par le locataire, et puis au bout de 15 ans ou de 20 ans, avoir une poire pour la soif, qui est l'inquiétude liée aux retraites principalement.
Donc, des achats à vocation d'investissement.
Oui.
C'est ça qu'on observe massivement. Est-ce qu'on observe également, parce qu'on en parle beaucoup, c'est vrai, tous les jours depuis un an, d'un rééquilibrage entre les grands centres urbains et la province, pas la France rurale, mais
des
petites et moyennes villes qui sont en train de profiter de l'arrivée d'une partie des Français qui vivent justement dans ces grands centres urbains.
Alors, il y a effectivement une perception, mais il y a ça qui se confirme. Nous, on a 350 agences en France, et effectivement, moi, j'ai beaucoup d'exemples de moyennes villes situées à côté de très grandes villes qui font face à un afflux de... Alors, ça va être Lyon qui va se déplacer vers Roanne ou Valence, ça va être Reims vers Chalon-sur-Saône. Enfin, vous voyez, des espèces de mouvements liés au fait qu'effectivement, le télétravail et que on veut plus d'espace.
Oui, j'ai un peu regardé l'évolution des prix au mètre carré entre 2019 et l'année 2020 qui vient de s'écouler. Il y a des choses assez surprenantes. Alors Nantes, ça progresse de 5%. Mmh. C'est peut-être moins surprenant. Rennes également, 7%. Orléans, qui avait baissé à un moment, progresse à nouveau, parce que pas très loin de Paris, c'est à peu près une heure de train, à peu près équivalent en voiture, qui progresse de 5,7%. Et la grande nouveauté, alors, est-ce que c'est une tendance durable ou pas? Je vous pose la question, Laurent Vimont. On observe une baisse sensible, pour la première fois depuis bien longtemps, à Paris.
Moi, je suis très dubitatif sur l'étude qui a été menée sur le sujet, parce qu'elle porte sur un mois, qui est le mois de janvier. On va attendre plusieurs mois pour la confirmer ou l'infirmer. Dans les chiffres qu'on a, nous, on n'a pas vu de baisse de prix à Paris. On a vu une grosse baisse des volumes de vente qui s'explique principalement par le fait que le confinement a vu Paris vider de ses habitants. Beaucoup de Parisiens sont partis à la campagne se confiner. Et comme Paris est resté zone rouge, les Parisiens ne sont rentrés que quand les écoles ont réouvert le 15 juin. Et donc, il a manqué à Paris une activité immobilière entre le 17 mars et le 15 juin, quasiment 4 mois.
Vous pensez que c'est
mois.
Un accident?
Alors, accident, j'en sais rien. Je n'attribuerai pas au confinement la baisse des prix à Paris. Il n'y a plus d'étrangers pour l'instant, ça peut être une raison, mais le marché parisien est un marché à nouveau dynamique, dans lequel moi, je n'ai pas vu de baisse de prix pour l'instant.
Je suis très prudent. Tous ces gens qui disent qu'ils quittent Paris, ça reste marginal, et ce n'est pas ça qui va avoir une influence sur le marché.
Il
ne
faut pas confondre les intentions et les actions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de quitter Paris pendant le confinement, et puis une fois qu'ils ont compris qu'il fallait changer les gamins d'école et le temps de transport allait double tripler, ils sont venus dans leur appartement parisien.
Je voudrais qu'on prenne une première question avant de marquer une pause. Cédric qui est avec nous, il a 42 ans. Bonsoir Cédric.
Bonsoir, Julien, bonsoir tout le monde.
Vous habitez à Clichy, ça se trouve en Ile-de-France, et vous cherchez à déménager à Bordeaux. Alors c'était un déménagement post-confinement justement. Vous avez, je crois, accepté une offre pour la vente de votre bien à Clichy, qui est un F4, et vous cherchez une maison de 4 chambres à Bordeaux avec un grand terrain pour y faire construire, pourquoi pas, une piscine. Vous avez un budget assez conséquent tout de même, 1 200 000 euros. Est-ce que vous avez une question pour nos invités?
Oui, absolument. En fait, je voulais savoir, en fait, depuis l'arrivée de la LGV, on sait que les prix ont flambé, notamment, absolument, les prix ont flambé à Bordeaux. Pensez-vous qu'on ait atteint un plafond?
Ah, bonne question. Qui veut répondre?
C'est super compliqué de
Laurent Vimont
décréter qu'il y a un plafond, parce que les plafonds n'arrêtent pas de les enfoncer depuis 10 ans en France. Le marché bordelais, il a certes beaucoup monté, mais il a aussi corrigé en 2020. Il a été animé en partie par les Bordelais qui avaient des plus-values importantes et qui pouvaient acheter plus grand avec ces plus-values, en partie par des gens qui viennent de l'extérieur, mais il est apparemment en train de trouver une forme d'équilibre parce qu'il a corrigé à la baisse en 2020. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas certifier qu'en 2021, il continuera de baisser. La seule façon de savoir si un marché a baissé, c'est quand il a arrêté de monter. Et ça, on le sait quand il baisse.
C'est mathématique. Cédric, si j'en crois ce que dit notre invité Laurent Vimont, vous pouvez donc acheter maintenant. Allez-y, hein. Vous confirmez Laurent Vimont.
Ben, si on a envie d'acheter, il faut y aller. Il n'y a pas de moment pour acheter quand on a trouvé le logement de ses rêves, ouais, qu'on s'y, ouais, projette et qu'on s'y trouve bien. Avec des taux bas, il n'y a pas de question à se poser.
Bien, on marque une première pause. Merci Cédric pour cette première question. On marque une première pause, on se retrouve avec nos auditeurs et nos auditrices et toujours nos deux invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on est toujours avec nos invités pour le débat du Club des Idées. On s'intéresse donc, vous l'avez compris, ce soir au marché de l'immobilier. La pierre qui se porte très bien en ce moment. On fait le point après un an de crise sanitaire et des taux toujours historiquement bas. Alors est-ce le moment d'investir ou est-ce le moment d'acheter? On est toujours avec Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com, et avec Laurent Vignon qui est président du réseau Century 21. Je voudrais qu'on prenne la question de Mehdi Bouguera. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir à tous.
37 ans, vous êtes du côté d'Andernos-les-Bains, ça se trouve vers le bassin d'Arcachon. Alors vous avez acheté une petite maison à Andernos-les-Bains, initialement pour de la location saisonnière, ça s'est transformé évidemment avec la crise sanitaire en location à l'année, et vous regardez, dites-vous, pour un autre projet d'investissement du côté de Marmande, ça se trouve dans Lot-et-Garonne, car c'est moins cher, et je crois que vous êtes en attente pour deux appartements dans ce coin-là. Quelle est votre question à nos invités?
Oui, ben, en fait, c'est pour reprendre un peu ce qui avait été dit en tout départ, au début de l'émission,
oui.
Sur la tendance à la baisse des prix. Moi, je suis sur la région de Bordeaux. Et du coup, moi, cette tendance à la baisse, je ne la vois pas du tout en recherchant des investissements immobiliers pour des petites surfaces. Hein. Du coup, sur des prix, on va dire les premiers prix accessibles. Les prix, en regardant régulièrement, en fait, ils ne font qu'augmenter. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'éloigne un peu de Bordeaux pour retrouver des prix plus accessibles.
Et par conséquent, vous regardez du côté du Lot-et-Garonne, c'est ça?
C'est ça, c'est une heure de Marmande, c'est à peu près une heure de Bordeaux. C'est accessible facilement en voiture, en transport,
oui,
et avec des prix qui sont quand même plus
alors,
intéressants.
Ouais. Eh ben on va demander à nos invités, merci pour votre question Mehdi, on va demander à nos invités, Laurent Vimont, est-ce que c'est une bonne astuce d'investir, y compris dans des milieux plus ruraux, dans des villages, dans des communes, quand on veut faire du locatif?
Il faut peut-être avant faire l'étude de marché, regarder l'offre locative existante. Si vous avez un programme neuf sorti de terre, il y a par exemple un an, avec 35 appartements à louer, il faut réfléchir un petit peu.
Y compris dans le vieux aussi, dans le petit bourg ou le centre-ville,
exactement,
il y a beaucoup d'appartements à louer. C'est
il faut
pas
faire attention, regarder les loyers qui sont pratiqués, non pas sur l'annonce, mais dans la réalité. Et puis après, effectivement, trouver un petit appartement, c'est une bonne idée parce qu'on est souvent obsédé, en tout cas de Paris, par les gens qui vont aller habiter ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que dans ces communes, il y a des gens qui habitent très heureux, qui ont des enfants qui grandissent et qui doivent se loger. Et ils n'ont pas envie d'habiter ailleurs. Donc l'offre locative française, elle a une vertu, c'est que le propriétaire qui achète un appartement, il crée un logement qu'il met en location. Certains ministres avaient oublié que pour qu'on puisse se loger en France, il faut un investisseur qui crée un appartement. Et l'investisseur immobilier français, il crée quelque chose qui est l'accès au logement pour des gens qui sont plus jeunes, de 18 à 25 ans, pas d'investisseurs, pas de logement privé.
Est-ce que vous avez des conseils, vous, Maëlle Bernier, à donner à ceux qui veulent investir comme ça pour faire du locatif?
Je suis assez d'accord. Il faut quand même se méfier un peu des sirènes et puis regarder bien où on achète, regarder si l'offre locative n'est pas trop élevée et puis surtout regarder combien va coûter l'achat en face. En gros, c'est de dire, voilà, est-ce que les gens qui vivent dans ces communes ou dans ces villes moyennes n'ont pas intérêt eux-mêmes à acheter? Parce que dans ces cas-là, le besoin en locatif n'est pas forcément aussi important qu'on peut le connaître dans les très grandes villes. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même des taux effectivement très très bas.
Y compris pour le locatif?
Alors, y compris pour le locatif, mais oui. Vous êtes à 0,10 au-dessus, hein, 0,20.
0,10 au-dessus.
Et comme d'accord, on a des taux autour de 1%, c'est pas non plus...
Et donc, on arrive encore à faire, peut-être plus que jamais, avec des taux bas, à faire l'équilibre entre les revenus du foncier, de la location...
Oui.
Et le remboursement de l'emprunt.
Si on est dans un endroit où il y a des besoins de location, oui. Mais c'est vrai qu'on a, nous, on a constaté beaucoup de jeunes qui veulent emprunter pour acheter leur résidence principale. On a quand même 40% de gens qui ont moins de 35 ans en 2020. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. C'est aussi beaucoup de jeunes Français qui, aujourd'hui, ont des perspectives totalement différentes parce que peut-être plus de voyages, plus, moins de loisirs,
donc
l'épargne un peu forcée.
Et
de se dire, et qui se disent, on voit très clairement, hein, il est peut-être, c'est peut-être le moment, finalement, pour moi d'acheter, alors j'aurais peut-être attendu un petit peu.
C'est vrai qu'on se souvient d'un président de la République qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui disait, tous propriétaires. On s'aperçoit 10 ans plus tard que seulement 57% des ménages français sont aujourd'hui propriétaires de logements. C'est assez peu. Hein.
De leur résidence principale.
Oui.
Je pense que dans les chiffres, on oublie ceux qui ont acheté pour investir.
Oui.
Et tous propriétaires, ce n'est pas forcément de son logement, de celui qu'on habite. Ça peut être, en tant qu'investisseur, dans le bon arbitrage, il faut bien distinguer la rentabilité de la plus-value. On n'aura jamais les deux. C'est-à-dire que si vous habitez ou si vous achetez un appartement que vous mettez en location dans une grande ville de France, vous aurez une rentabilité faible parce que le prix de vente sera élevé et l'écart entre le prix de vente et le loyer fera que la renta sera de 2-3%.
Oui.
Si vous voulez la rentabilité plus forte, il faut acheter dans des marchés où il y a moins de demande, mais vous avez un loyer qui est potentiellement élevé, donc une rentabilité à 8 ou 9%, mais avec un souci de locataire. C'est-à-dire qu'il faut les trouver, les locataires. Et donc, trouver le bon investissement, c'est faire... résoudre l'équation qui est entre la demande locative, le prix d'achat et l'investissement, j'ai trouvé un équilibre entre la rentabilité et la plus-value long terme.
Oui, ou
la
plus-value. Si on se retrouve sans locataire pendant un an, ça va être compliqué.
Ah, très compliqué, oui. Le crédit, il faut le rembourser, lui.
Oui. Et vous disiez...
Il ne faut pas rêver, le loyer rembourse rarement 100% du crédit.
Oui.
Très rarement.
Oui, puis après, il y a la taxe sur le revenu.
Et puis, il y a des frais, et donc il ne faut pas tout mettre
sur l'impôt nominal.
La taxe foncière,
oui, et les revenus fonciers. Vous évoquiez tout à l'heure le boom de l'investissement locatif qu'on observe là depuis le début de l'année 2020. C'est simplement sur des petites surfaces, des grandes surfaces, où il y a un peu de tout dans ce nouveau marché?
C'est principalement des petites surfaces. Il faut rappeler que la bourse a pris un sacré bouillon en mars, que les Français sont inquiets sur leur retraite et que l'argent rapporte plus grand-chose. L'avantage, c'est que les taux sont extrêmement bas et que donc on peut emprunter une centaine de milliers d'euros aujourd'hui en France pour environ 500 euros de mensualité et qu'avec 100 000 euros, on trouve des logements qu'on peut louer 400 euros. Donc vous avez un effort d'une centaine d'euros pour être propriétaire. Donc
oui, c'est intéressant.
Le bon calcul, c'est combien je vais devoir mettre entre mon loyer et mon crédit au bout pour financer mon achat d'appartement. Mmh. Et le calcul, il n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas un truc miraculeux où l'argent tombe du ciel et où au bout de 15 ans, on a déboursé 0 euro. Il faut prévoir quelques petits inconvénients, entre autres un ballon d'eau chaude qu'il faut changer. Enfin, bref, avoir un petit paquet d'économies de côté...
Oui.
Et ne pas imaginer que tout va bien se passer pendant 15 ans en tant qu'investisseur.
Oui, il faut toujours avoir un petit peu d'argent pour parer aux imprévus. Maëlle Bernier, c'est quoi les meilleurs taux qu'on trouve en ce moment? C'est un peu la question qu'on vous pose à chaque fois.
Oui,
c'est
pas grave. Alors, on a aujourd'hui pulvérisé les records de 2019. C'est-à-dire qu'on a des taux affichés qui sont en moyenne autour de 1% sur 20 ans. En dessous pour les excellents dossiers. Donc, on a des barèmes bancaires
en dessous de 1%.
On est à 0,65 sur 15 ans pour les très bons dossiers, 0,85.
Quelles que soient les sommes empruntées.
Oui, alors en fait, quand on dit excellent dossier, c'est en gros un excellent dossier. C'est quelqu'un qui a de quoi financer les frais annexes, un peu plus, 20% ou 30% en plus, et puis enfin d'apport, et qui va en plus garder de l'épargne résiduelle derrière. Ça, c'est les excellents dossiers des banques. Ce qui a changé par rapport à 2019, c'est où les taux étaient très très bas et où, pour le coup, on empruntait à 110%, c'est-à-dire on payait même les frais annexes, c'est qu'aujourd'hui, les banques sont quand même extrêmement vigilantes parce que la situation économique est très compliquée. Donc, elles ne vont pas non plus se faire reprocher en quelques mois d'avoir surendetté des gens. Donc, elles regardent vraiment la stabilité professionnelle, le secteur d'activité, notamment dans un foyer. S'il y en a deux qui sont sur un secteur d'activité compliqué, aujourd'hui, on va bloquer, le dossier ne passera pas parce que qu'est-ce qui va se passer quand les aides vont s'arrêter? À un moment donné, on va arrêter d'être perfusé. Et du coup, il ne faut pas non plus en surendetter des gens. Donc, les banques sont très prudentes.
Bien. Il y a des taux très, très intéressants. Moins de 1% sur 15-20 ans, ça, c'est quand même assez incroyable. 19h38, on marque une nouvelle pause. On se retrouve avec Nicolas, qui a 55 ans, qui habite à Colombes, en Ile-de-France, et qui a une question à vous poser. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat du Club des Idées, on s'intéresse toujours au marché de l'immobilier avec nos invités. Beaucoup de questions au standard avec Nicolas, 55 ans, je le disais, qui habite à Colombes, en Île-de-France. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Alors, vous êtes un serial investisseur, vous êtes propriétaire de votre maison, vous avez acheté avec Century d'ailleurs, il y a 3 ans, un petit immeuble où maintenant il y a des studios à la location, et vous envisagez un autre investissement du même genre, je crois, peut-être dans le Gard ou peut-être à Colombes, ça n'est pas du tout la même région. Quelle est votre question à nos invités ?
Oui, en fait, bonsoir Maëlle et bonsoir Laurent. Juste pour resituer, en fait, je suis en train d'acheter pour moi à côté du ZES, oui. Et je vais vendre Colombes. Et également, connaissant bien le secteur de Colombes, où j'ai déjà effectivement investi grâce au bon conseil de Century à Colombes, je vais avoir des capitaux à réinvestir également pour continuer à faire du locatif pour la retraite, ce que vous évoquiez tout à l'heure avec vos invités. Ma question, c'est de savoir, la maison avec jardin qui attire aujourd'hui beaucoup de Parisiens, villes ou de banlieusards immeubles qui cherchent des espaces avec jardin, est-ce qu'il vaut mieux vendre maintenant pour financer d'autres investissements ou est-ce qu'il vaut mieux attendre peut-être encore 12 mois. Là, sur la banlieue ouest où on se trouve, le marché a fait plus 8, plus 9% sur les surfaces avec jardin. Est-ce qu'il vaut mieux, à votre avis, Laurent, attendre 12 ou 24 mois ? Est-ce que ce marché risque encore de progresser ? Est-ce que ce balancier a fini son mouvement ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore un flux important qui risque de se produire ?
On aura la réponse dans 24 mois. plus sérieusement, moi je suis de ceux qui considèrent qu'il faut prendre son bénéfice et puis le réinvestir en ayant pris soin avant d'aller voir le marché et de trouver le logement, la maison de ses rêves. C'est une quête d'un Graal, c'est un parcours du combattant. Et comme les taux d'intérêt aujourd'hui sont extrêmement bas, les prêts relais sont bas, donc on peut parfaitement imaginer acheter quelque chose quand on l'a cherché, qu'on l'a trouvé, et vendre après. Mais c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution.
Ce monsieur a déjà visiblement trouvé la maison de ses rêves, à Uzès. Là, il se demande juste, est-ce que je vends maintenant ou j'attends un peu ?
Boule de cristal totale.
Boule de cristal.
Incapable de lui dire si le marché va augmenter ou baisser. Pour l'instant, il est haussier, mais il suffirait d'un coup de grisou sur les taux et personne ne peut le prévoir. En 2008-2009, je rappelle, les taux ont explosé sans que personne ne voit rien arriver.
Oui.
Et ça a gelé le marché d'abord sur les volumes et ça a fait baisser les prix. C'était la déflagration.
Oui, quand les taux remontent, forcément, ça a une incidence
sur les taux d'intérêt des finances en France.
Oui,
donc,
oui.
C'est imprévisible. Ce n'est pas la tendance du moment, mais ça peut arriver.
Mais quand même, là, sur les taux, parenthèse, Maëlle Bernier, directrice de la com et porte-parole de meilleurtaux.com, vu la situation qui s'annonce et la crise économique qui s'annonce, on voit mal la Banque Centrale Européenne relever ses taux.
Ça, pour le coup, ce n'est pas totalement boule de cristal. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que les taux remontent. Encore une fois, on est à 1%, même si ça remontait de 30 centimes, on sera à 1,30. On ne va pas se retrouver dans la situation de 2008, et heureusement.
Ah, ça, on ne sait pas.
Non,
personne
ça
n'a vu arriver.
Déjà en 2008, on est passé, effectivement, je me rappelle, on était à 5,40 et on était à 4,80 avant la crise. On n'a pas, et ça n'a pas non plus, on n'a pas pris.
On était à 5,40.
À 5,40, c'était octobre 2008.
On a oublié ça, mais
on a oublié,
quand même.
Oui, oui, oui.
Aujourd'hui, 1%.
On venait de 4%.
5,40,
oui,
c'est
mais
10 ans.
Un peu plus. Un peu plus que non.
Ça a fait 5,40 en l'espace de 3 mois.
Alors.
Non.
Pas de boule
non,
de cristal,
non,
voilà.
Donc, jamais.
C'est à vous de prendre votre décision, en somme, mon cher Nicolas. Merci pour votre appel. On va écouter, tiens, Robin, qui a la trentaine, qui va déménager de la métropole lilloise pour Strasbourg. Il va mettre sa maison en location et il se demande eh bien, s'il doit acheter ou louer. On écoute sa question.
Bonsoir, je me présente, Robin, la trentaine. On va quitter notre nord pour aller plein est dans la métropole de Strasbourg. La question que je me posais, parce que là, en fait, on a gardé notre maison dans le nord qu'on a mis en location. Sur la métropole strasbourgeoise, on part également en location. Mais la question que je me posais, c'était est-ce qu'en fonction du marché actuel, il n'aurait pas été plus intéressant de partir directement sur un achat immobilier ? Est-ce que les marchés de l'immobilier vont être amenés à voir les prix grimper ou à voir les prix descendre ou pas ? Voilà, c'était ma question que je voulais vous poser ce soir.
Voilà, à chaque fois, ce sont des questions très précises.
C'est toujours super intéressant de démarrer par une location pour tâter le pouls du marché et de ne pas se précipiter sur un achat. Et puis ensuite, d'imaginer que la maison qui met en location...
Vous savez ce que c'est, quand on part en location, on a l'impression de ne pas vraiment s'installer.
Oui, on déménage.
Oui, mais c'est prudent.
c'est prudent.
Plutôt se jeter sur un achat et puis de voir comment le locataire en place à Lille va payer son loyer, parce que l'un va financer l'autre. Donc moi, je serais très prudent et je ne pousserais pas au crime en disant commencez par une location. Et si la ville vous plaît, si vous voulez y rester, si vous avez fait le tour du marché au niveau... Parce que arrivant à Strasbourg, quel est le secteur que je vais privilégier?
Oui.
Je ne connais pas la ville, il faut y passer un petit peu de temps, la découvrir, s'immerger. Et une fois qu'on a compris comment la ville fonctionnait, choisir un quartier...
Un an de location?
Oui, 6 mois, un an. Oui, oui.
6 mois, un an.
Ouais, faut pas... En fait, il ne faut pas trop attarder. Et puis, moi, je pense effectivement, il faut vous palper la ville. Après, il la connaît peut-être mieux que nous. Et puis surtout, il ne faut quand même pas oublier, parce que là, il parle de mettre en location son bien à Lille. Il ne faut pas oublier que s'il achète une autre maison, dans son endettement, va rentrer le prêt qui est déjà sur la maison à Lille. Et même s'il y a des loyers, on ne compte pas 100% en face. Donc, il faut quand même qu'il ait en tête que ce bien à Lille, c'est un investissement, c'est loué, oui. Mais ça grève quand même sa capacité d'endettement. Alors, et donc, son futur budget d'achat.
On a une autre question à propos de la métropole lilloise, parce que là-bas, les prix ont grimpé de 3% sur un an. Donc,
c'est un marché assez
vigoureux en ce moment. C'est la question que nous pose ce couple. Ils ont moins de 30 ans, écoutez-les.
Bonjour, je m'appelle Fabien.
Et moi, c'est Elodie.
Donc, je travaille dans l'informatique et j'ai 35 ans.
Et moi, je suis secrétaire médicale et j'ai 28 ans.
Donc, on est tous les deux à la recherche d'un premier achat immobilier en commun. On est un peu obligé de déménager suite à l'arrivée d'un nouvel enfant. Donc, on a besoin d'une chambre supplémentaire. On s'interroge beaucoup sur notre premier achat, en sachant qu'on voit les prix augmenter et le nombre de biens diminuer. On a toujours peur d'acheter un bien en haut de la bulle et qu'il soit plus cher que ce qu'il vaut réellement.
Bon, maintenant je vous connais, Laurent Vimon, président de Réseau Century 21, je sais à peu près ce que vous allez répondre, c'est toujours la même chose, on ne sait pas ce que le marché va donner, il n'y a pas de plafond, donc si on a envie d'acheter, il faut se lancer.
Alors, je ne vais pas dire ça précisément, parce qu'on a beaucoup parlé de bulles, et en fait il y a plus de gens qui parlent de bulles que de bulles qui ont éclaté depuis que je fais ce métier, ça fait environ 35 ans.
Oui, mais quand ça éclate, ça fait mal quand même.
Oui, mais il n'y a pas eu de bulle immobilière. Il y a eu des corrections, l'immobilier, le marché, c'est comme une cocotte minute, avec le petit bouton au-dessus, quand il y a un excès, il purge. Il corrige d'abord sur les volumes et ensuite sur les prix. Et l'achat d'un logement, c'est un achat sur 15 ans ou 20 ans. Acheter au-dessus du marché aujourd'hui et voir le prix baisser de 5% l'année prochaine, ce n'est pas tellement grave. Il n'y a pas de conséquences puisque vous ne vendez pas. Ce qui est gênant, c'est si vous achetez et vous devez vendre 6 mois après et que le marché baisse. Mais si l'achat, c'est sur une quinzaine d'années avec des enfants dedans, vous achetez le logement de la famille, votre usine à souvenirs, et dans 15 ans, la correction qui est peut-être possible, j'en sais rien, elle aura complètement disparu.
C'est important ce que vous venez de dire, parce qu'il y a l'investissement, il y a aussi le plaisir.
C'est le plaisir d'être propriétaire.
Ça doit rester un plaisir
c'est
aussi.
Ça, c'est effectivement, quand vous dites c'est l'usine à souvenirs, ça c'est la chanson de Benabar. Quoi. C'est-à-dire que là, on part dans un achat, il y a un enfant qui arrive, et puis la bulle, c'est pareil, Lille, les prix à Lille ne sont pas non plus, il n'y a pas de bulle à Lille. Même qu'il y a pas de
on est à combien du mètre carré?
On est autour de 3000, 3500. C'est une très grande ville qui est à moins de 50 minutes de Paris. Je pense que des achats dans des villes comme ça, franchement, pour le coup, il faut vraiment y songer. Et surtout quand on a un projet de vie, et surtout, encore une fois, avec des taux aussi bas. Et puis, vu leur situation professionnelle, a priori, ils sont dans ceux où ça va répondre oui.
Oui. Alors, il nous reste une dernière question. Je voudrais qu'on la prenne parce qu'elle est fort intéressante. C'est Greg, qui a 29 ans, qui nous appelle de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous hésitez entre deux projets. C'est un investissement locatif d'un côté sur Paris, qui ne se dévaluera pas, dites-vous, et vous avez sans doute raison de le dire, sur une petite surface. Ou alors acheter une résidence principale, mais pas sur Paris, parce que vous n'en avez pas les moyens, vous choisiriez dans ce cas-là plutôt la banlieue. Est-ce que vous voulez poser une question précise à nos invités?
Bah justement, c'est la question que vous venez d'énumérer. C'est actuellement...
Quoi faire?
Actuellement, étant donné que nous sommes locataires sur Paris avec du coup des loyers assez importants, la question était est-ce qu'il vaut mieux privilégier, comme vous le disiez juste avant, la dépense de ce loyer pour un investissement immobilier. Et du coup, étant donné que l'immobilier sur Paris est assez élevé en ce moment et qu'une grande surface pour une famille, je suis papa de deux enfants, me coûte beaucoup trop cher, est-ce que vaut mieux privilégier un investissement locatif sur la capitale, qui est du coup un investissement avec un risque plus minime que celui en banlieue, mais qui serait du coup sur une résidence principale?
Merci Greg, nos invités vont répondre. C'est vrai, Laurent Vimon, que c'est un cas d'école. Ça. Tout le monde, enfin beaucoup de Français qui habitent en Ile-de-France se posent cette question.
Là, c'est un Parisien. Et c'est vrai que l'accès à Paris pour les grandes surfaces est quasiment impossible, sauf à gagner 15 000 euros par mois, ce qui n'est pas tout à fait commun. Oui. Ce qu'il faut bien poser, c'est les conséquences d'un déménagement d'un Parisien qui va l'habiter à 5, 10, 15, 20 kilomètres de son lieu de travail. C'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que c'est des temps de transport, c'est des coûts de transport, et être propriétaire, il faut jamais le faire à n'importe quel prix. Alors, si ces temps de transport sont trop lourds, si ça casse la vie de la famille, malgré le télétravail, et c'est pas 100% du temps, il faut pas le faire. Et acheter un appartement qui mettra en location lui permettra peut-être dans 5 ans ou 10 ans de disposer d'un apport personnel plus conséquent, puisque l'appartement aura pris de la valeur,
oui,
le crédit aura été en partie remboursé, et donc oui, il aura un capital qui permettra d'avoir... de mettre le pied à l'étrier plus facilement.
Oui.
Partir de
si
zéro,
l'objectif, c'est de vivre à Paris.
D'être
vraiment
à Paris. Oui. Si en revanche, l'objectif, c'est de partir habiter en banlieue ou en province, il faut y aller. Mais moi, je suis très, très, très réservé sur ceux qui veulent quitter Paris en sous-estimant les conséquences. Je travaille à Évry, j'habite à Paris. Et tous les jours, je croise des gens qui vont habiter à Paris, travailler à Paris et qui habitent en banlieue. C'est une heure quinze en voiture.
Oui.
Transport en commun, il y a des grèves. Donc il faut être extrêmement raisonnable et puis s'imposer peut-être pendant une semaine, 10 jours de faire le trajet pour voir comment c'est.
Un dernier mot.
C'est un projet de vie. Donc après, ça dépend aussi de leur projet de vie, de est-ce qu'ils envisagent de rester longtemps, quel âge ont les enfants. Enfin, à la petite surface, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, il est très jeune, mais ça peut être aussi un investissement pour plus tard. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de réponse. C'est une réponse normande que je fais, mais il n'y a pas de réponse toute faite. C'est vraiment un projet de vie et je suis assez d'accord avec Laurent. Il faut bien mesurer ses choix par rapport au déplacement.
Bien. Merci infiniment d'avoir joué le jeu des questions-réponses. C'était très instructif et vous revenez quand vous voulez, évidemment, parce qu'on avait encore plein de questions à vous soumettre. Merci à tous les deux d'avoir été ce soir mes invités dans Europe Soir.